Eh bien, la confession, elle devient toute particulière, le regret des péchés, par rapport à un Dieu terrible, à qui on fait plein d'offrandes, voyez, pour l'apaiser, pour reconnaître qu'on a été pécheur et rattraper ce qu'on a pu voler, ce qu'on a pu faire de mal, en donnant beaucoup d'argent, beaucoup de moutons, beaucoup de vaches et tout ça. Eh bien, quand Dieu a payé le péché lui-même, en remplaçant l'agneau pascal par lui-même, par l'agneau de Dieu, alors ce n'est plus au Dieu Tout-Puissant, ce n'est plus. C'est à Dieu Tout-Puissant que l'on doit craindre que nous nous confessons encore. Seulement, c'est très particulier, puisque c'est maintenant par Jésus-Christ qu'on se confesse. Or, Jésus a donné sa vie. La dette qu'on a par rapport à Dieu Tout-Puissant et terrible, maître de la vie et de la mort, est maintenant une dette vis-à-vis de Jésus. Donc, on ne demande plus seulement pardon à son Père, mais aussi au Fils. Parce que le Fils a pris sur lui nos péchés. C'est double peine. Et non seulement on offense Dieu dans sa majesté divine, et donc plus particulièrement le Père, mais maintenant qu'on pêche, on pêche aussi contre l'incarnation et la rédemption. Un chrétien pêche presque deux fois, c'est merveilleux ce que je vous annonce. Il pêche comme tous les païens, et il doit reconnaître ses torts comme tout homme, mais en plus, comme Jésus est mort pour lui, il doit lui demander pardon aussi à lui. On ne devrait jamais pécher après avoir eu la révélation que Dieu s'est fait homme et qu'il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Et d'ailleurs, vous aviez certains prêtres et certains évêques extrêmement sévères qui considéraient que si quelqu'un péchait après son baptême, il se damnait. Il n'y avait aucune possibilité pour lui de recevoir à nouveau le pardon de Dieu. Car le baptême reçu adulte valait confession de toute sa vie passée, de toutes ses fautes passées. Et encore maintenant, des personnes baptisées adultes, le mérite de croire que Dieu nous aime, qu'il n'est pas seulement le Créateur Tout-Puissant, mais qu'il s'est fait homme et qu'il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, sous les yeux de sa mère, eh bien, c'est un mérite qui couvre nos péchés. Et donc, quand on est baptisé, toutes les fautes qu'on a commises, et toutes les peines, et toutes les réparations qu'on devrait accomplir pour réparer nos fautes, comme lorsque vous vous fâchez, vous avez une querelle très dure avec quelqu'un, avec un frère, une sœur. Mais il suffit pas de lui demander pardon. Il faut aussi ensuite entretenir, rétablir par des gestes, par des repas partagés, cette réconciliation. Si c'est vous l'offensé et que cette personne reste dans l'offensive, vous pouvez garder de la distance. Mais vous devez lui pardonner devant Dieu et ne pas souhaiter qu'elle soit punie à la mesure de son péché, mais qu'elle se convertisse et qu'elle vive. Eh bien, là, voyez-vous, dans la confession, nous avons une dette particulière vis-à-vis de Jésus qui s'est fait homme et qui est mort pour nous. Donc, historiquement, vous avez des évêques, des prêtres qui ont à un moment donné considéré qu'il n'y avait même pas de possibilité d'être pardonné après le baptême. Au point même qu'ils considéraient qu'on devait être rebaptisé à chaque fois qu'on péchait. Mais être rebaptisé à chaque péché, c'est considérer, si vous voulez, que la mort de notre Seigneur et les mérites infinis de sa mort sont applicables, réapplicables, réapplicables, directement et à chaque fois. Or, voyez-vous, le baptême est tellement saint et il nous donne une telle puissance de salut qu'on le donne qu'une fois. Mais vous avez un saint évêque comme le saint Cyprien de Carthage, qui était l'archevêque, qui était l'évêque le plus important de tout le Maghreb, qui était chrétien, et avant Saint-Augustin, 200 ans avant Saint-Augustin, et qui était d'une autorité extraordinaire, et qui était écouté, respecté. On l'appelait le pape de l'Afrique. Eh bien, il s'est opposé au successeur de Pierre, à Saint Corneille, sur le pardon. Quand vous avez les chrétiens sous la persécution des empereurs dans les années 250, avec des années de paix, où les chrétiens relevaient la tête, où ouvraient des églises, avaient leurs livres liturgiques, eh bien, on appelait l'apsie, ceux qui tombent, ceux qui apostasiaient parce qu'ils avaient peur d'être tués et ils préféraient mettre de l'encens devant la statue de Jupiter et repartir avec la viscose. Vous avez les traditores, c'est ceux qui livraient des missels, des sacramentaires, où il y avait les paroles de la consécration, où il y avait les prières de la messe. Et on les livrait aux païens pour qu'ils les lisent, pour qu'ils vérifient, puisque les païens accusaient les chrétiens de manger Jésus. Et pour manger Jésus, de prendre des bébés, comme l'enfant Jésus de Bethléem, et de le tuer, et de le démembrer pendant l'Eucharistie. Et de manger la chair d'un enfant. Ou la chair d'un adulte, mais plutôt la chair d'un enfant. Disons, c'est écrit dans vos livres que vous mangez la chair du Christ. Donc comme le Christ, il est mort, donc vous mangez de la chair humaine. Et donc le fait de donner des sacramentaires où il était écrit qu'on mangeait le corps et le sang, qu'on buvait le sang du Christ, et bien ensuite les juges, les gouverneurs disaient « Regardez ces monstres !» Ils disaient à la population « Mais regardez, ils boivent du sang humain, tout ça, regardez, mais c'est écrit dans leurs livres. » Donc c'était tellement grave comme péché, que Saint Cyprien de Carthage disait, ils sont damnés. On ne peut pas leur pardonner. Et alors, on peut éventuellement les rebaptiser. Il n'y a que un nouveau baptême qui peut remettre un tel péché. Et là, vous avez Corneille qui dit, il crie, Saint Cyprien, il dit, on l'a jamais fait. On n'a jamais rebaptisé. Alors ce qu'il y avait, c'était des confessions à péché public, il y avait reconnaissance publique de ses fautes. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui attaquent le sacrement de confession disent « Oh, c'est une invention tardive, vers les années 600, en Irlande, enfin, ils vont aller chercher l'Irlande, comme s'il n'y avait pas assez de chrétiens, en Arménie, en Terre Sainte, en Égypte, pour qu'il y ait d'autres vies que la vie en Irlande. » Et donc, quand vous faisiez un péché public, il y avait une pénitence publique qui pouvait durer 10 ans. On ne communiait pas pendant 10 ans. Les cendres, c'était le fait de la coutume juive de retirer ses habits, de s'habiller avec un sac à pommes de terre, un sac de crin, et de se mettre de la terre sur la tête, de la cendre sur la tête, pour montrer qu'on était dans la pénitence, qu'on était dans le regret de ses péchés. Le roi David, lui, a demandé pardon à Dieu d'avoir tué le mari de la femme qu'il convoitait, Uri. Il l'a fait revenir, il a couché avec la femme d'Uri, et elle est tombée enceinte. Alors, elle venait de tomber enceinte, un mois. Donc il fait venir Uri de la guerre, du champ de bataille, et lui dit tu vas retourner chez toi, prends un bain, parfume-toi et honore ta femme. Et Uri dit mes soldats sont en train de se battre là-bas, moi je vais pas me coucher, me laver. Et il a dormi par terre. Alors, deuxième soir, le roi David l'invite et lui dit, eh bien on va boire, on va quand même aller, comment dire, tu es là, tu es à Jérusalem, dans la capitale, avec ton roi, partage son repas, et tout ça. Il le fait boire et boire et boire et boire. Il dit, rentre chez ta femme. Eh bien, ivre mort, il arrive et il couche par terre devant la porte de sa maison. Il ne veut pas rentrer dans sa maison parce que ses soldats couchent dehors. Alors, qu'est-ce que fait David ? Et il prend son plus beau parchemin et il fait écrire il écrit « Cher Joab, c'est son général en chef, je te renvoie Uri, ton officier, et je te demande de le mettre à l'endroit le plus terrible de la bataille, et quand il sera sous les flèches et les traits et les lances de nos ennemis, tu le quitteras avec tes soldats. Tu donneras l'ordre de partir vite pour qu'il puisse mourir à cette brèche-là. » Il ferme la lettre et il la donne à Uri. Tiens, c'est un pli cacheté, remets-le à Joab. Merci mon roi. Donc il arrive et il donne à Joab son arrêté de mort. Joab lit la lettre. Vous connaissez non, il m'a dit que c'était secret. Ah oui, oui. Voilà. Donc ils vont à un endroit terrible du siège d'une ville et Joab obéit au roi. Ils arrivent, Uri est là, il se bat, et puis Joab dit « On se retire !» et tout tellement vite que Uri n'a pas le temps de se dégager lui-même et il meurt. Et là, vous avez le prophète Nathan qui arrive et qui dit à David une parabole. Il dit « Il y avait un homme qui avait de nombreux troupeaux et un de ses serviteurs avait une petite chèvre dont il prenait le lait et qui était vraiment un animal de compagnie et qu'il aimait beaucoup. Et puis son maître, à un moment donné, a des invités, et comme il ne veut pas tuer une bête de son troupeau, il fait égorger la chèvre de son serviteur. C'est du vol, c'est injuste, et c'est en plus cruel pour ce pauvre homme. Et là, Nathan lui dit, toi qui es le juge, qu'est-ce qu'on fait? Qu'il soit puni, cet homme, Eh bien, cet homme, c'est toi. Tu as toutes les femmes que tu veux, et tu as pris la femme d'un autre. Ah. Alors je t'annonce que l'enfant qu'elle porte va mourir en punition de ton péché. Une chose qu'on oublie, Eh bien, du coup, David ne mange plus, il jeûne, il fait pénitence, il s'habille d'un habit de crin, de laine crue, et il se met de la cendre sur la tête, et il est prostré. Et il supplie et il prie Dieu de lui pardonner son péché. Et l'enfant va naître. Il tombe malade, il est mourant, alors il en rajoute, et l'enfant meurt. Et quand les serviteurs du roi lui annoncent que le fils de Bethsabée, je crois que c'est Bethsabée, est mort, l'enfant est mort, là, David se lève, retire son sac, prend un bon bain, se parfume, s'habille et mange. Et là, les serviteurs, c'est un peu raide quand même comme changement. Et David d'expliquer, j'ai supplié Dieu, maintenant que Dieu a pris sa décision, que Dieu soit béni. Je lui ai demandé, il ne m'a pas exaucé, mais c'est lui qui est le Seigneur et c'est lui qui est le Maître. Mais il va pouvoir se marier avec cette femme et ensuite avoir Salomon. Et pour préciser l'histoire, quand vous avez la généalogie de notre Seigneur, on précise que Salomon est né de la femme d'Uri. Pour bien rappeler le péché de David. Pour appuyer où ça fait mal. Mais pour que Dieu nous montre, justement, qu'il fait miséricorde à des générations. Eh bien, le fils prodigue de ses biens de son père revient. Lui, il a tout dépensé. Il s'occupe des porcs, donc comme juif, c'est très humiliant de s'occuper d'un animal impur. Et il va demander pardon à son père. Et le père, lui, l'habille, le fait se laver, l'habille, lui donne son anneau paternel et va sacrifier le veau gras pour le retour de son fils. Et le fils, qui lui a toujours été fidèle, il est là et dit « Moi, j'ai toujours été fidèle. Et quand, avec des amis, on avait un repas, tu ne donnais même pas un chevreau. C'est vraiment injuste. » Et là, le père lui dit « Mais il fallait se réjouir parce que ton frère était mort. » Et bien sûr, le veau gras, mais c'est Jésus. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui meure à la place du péché de cet enfant. Il était mort et maintenant il est vivant. Mais qui va mourir à sa place pour lui redonner la vie? Le veau gras, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous le saviez dans la parabole de l'enfant prodigue. Hein. Il faut bien que quelqu'un donne sa vie pour satisfaire la justice divine. Oui. Et là, voyez-vous, c'est assez impressionnant. Et il y a une autre parabole. Donc, cette parabole de l'enfant prodigue, elle nous ramène à ce que je vous disais en première partie. C'est qu'il y a une justice, il y a une peine. Il y a quelqu'un qui meurt. Et donc, la confession, ici, nous demande, par rapport à ces premiers chrétiens, et cette dispute entre Corneille et Cyprien, eh bien, le bon Dieu les a tous mis d'accord, les deux, et ils sont tous les deux morts martyrs. Voilà. Donc ils ont été réunis dans le martyr, et il n'y a plus de dispute possible. Ils étaient morts, hein, donc c'est plus compliqué. Ils ont tous été réunis dans la gloire. Ouais. Mais avant de mourir, quand même, pour la petite histoire, on essaye de dire qu'ils s'étaient réconciliés, mais bon, hein, on tire un peu la couverture, côté happy end, hein, mais c'est... Corneille et Cyprien se sont disputés là-dessus. Et donc, les peines étaient publiques. Et la cendre était imposée aux pécheurs publics. Saint Ambroise a appris que l'empereur romain, qui commençait à devenir l'empereur byzantin, hein, qui avait déjà quitté Rome, je crois, du temps de Saint Ambroise, qu'il avait fait massacrer des prisonniers lors d'une bataille. Et je crois que c'est cela, le péché de l'empereur. Saint Ambroise lui a interdit l'entrée de la cathédrale de Milan. Il venait pour la messe, Saint Ambroise lui a dit « Tu restes dehors. » Mais tout ça, vous voyez, ce sont des fautes publiques avec des peines publiques, des pénitences publiques. Alors, je vous pose une question par rapport à ceux qui vous disent qu'il a fallu attendre les moines irlandais et des braves Irlandais chrétiens qui allaient voir un moine et qui disaient « Voilà, j'ai été malhonnête dans la vente de mes bestiaux j'ai fait trop payer, j'ai volé. » Vous voyez ? Pénitence publique, donc le prêtre arrive et dit « Voilà, hein, cet homme vous a vendu 3 vaches malades pour 2-3 vaches en bonne santé. » Je vous le dis à tout le monde dans le village. Ah, ah oui. Pénitence publique. Ah oui, 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 c'est un voleur. Alors, vous avez un homme qui vient voir un vieux prêtre ou son évêque, parce qu'il y avait un évêque dans chaque ville. Les prêtres sont les auxiliaires des évêques. Mais dans les premiers temps de la chrétienté, il y avait beaucoup d'évêques. C'était le prêtre de la ville. Voilà, j'ai trompé ma femme. Moment d'égarement... Ah bon, et le dimanche à la messe, voilà, hein, Tullius a trompé sa femme. Voilà. Donc il va pas communier pendant 10 ans. Oh oui, oui, oui. La femme, oh, là, le drame. Eh bien non. Quand on allait voir seul à seul un évêque ou un prêtre, eh bien il le disait pas après, vous voyez. Péché public, mais il y avait des péchés secrets, péchés privés. Et donc il est bien évident que c'est pas les Irlandais qui ont dit. Mais tu l'as dit encore là sur la place du village qu'il avait tué son voisin, qu'il avait calché le corps. Ça fait une dispute entre les deux familles, hein. Ah oui, c'est vrai. Là, quand je me suis monté sur la pierre, j'ai dit voilà, hein, John m'a dit qu'il avait tué le voisin qui avait disparu. Vous savez, Peter qui a disparu depuis 2 mois. Ben John vient de me dire que c'est lui qui l'avait tué. Voilà. Mais à la place du marché, hein, au moment où on achetait les œufs, les poulets, tout ça, entre la poire et le fromage, vous avez le prêtre qui dit John a tué Peter, hein. Donc on va lui faire une pénitence publique. En l'occurrence, là, c'était la peine de mort à l'époque, hein. Mais alors, comme ils ont trouvé ça gênant, nous disent les progressistes, ils ont fait des pénitences privées. Ils ont commencé à dire, eh ben, on va plus le dire publiquement, hein. On est d'accord. Et ils faisaient des pénitenciers. On a retrouvé des livres des années 600 où vous avez les moines qui disaient un vol, un mois de jeûne, un adultère, 3 ans de jeûne. Voilà. Et c'était tarifé. Et une insulte, je sais pas, comme les moines, eux, alors les moines entre eux, ça va être très drôle les pénitences. Puisque les moines irlandais récitaient les 150 psaumes dans l'eau, les bras en croix. Vous voyez? Donc il fallait d'abord les apprendre par cœur, et ensuite vous êtes dans l'eau, et en Irlande l'eau est à 12, 15 degrés, 10 degrés, enfin c'est pas... Vous voyez? Et les bras en croix. Donc là, je vous assurais qu'en matière de pénitent, et il faisait ça même sans péché. Donc imaginez ce qu'on pouvait proposer à un moine s'il avait... si on découvrait qu'il avait une pièce d'or dans son oreiller, enfin voilà. Au cas où. Voilà. Eh bien, voyez-vous, il est bien évident que la confession a toujours existé et qu'elle était secrète, comme maintenant. Quand on se confiait à un prêtre, au nom de Jésus-Christ, le prêtre assurait de cette personne de la miséricorde du Christ. Alors, la confession telle que nous la connaissons maintenant, elle est très simple. Il y a d'abord le fait d'aller voir un prêtre avec la certitude que c'est Jésus qui nous écoute. On peut aller voir nos parents quand on a 5 ans ou 3 ans. On peut aller voir notre grand-père ou notre grand-mère. On peut aller voir un sage. On peut aller voir une sainte personne. On peut être riche et aller voir un psychologue. Un psychiatre, c'est remboursé par la sécu. Un psychanalyste, alors là, ça pique. Parce qu'en plus, il vous dit rien. Et vous donnez 90 à 120 euros pour la demi-heure et il vous dit rien. Et au bout de 5 ans de psychanalyse, il vous dit surtout détestez votre mère. 2 ans plus tard, il vous dit, n'oubliez pas de détester votre père. Et, alors, je caricature, hein, il y a des psychanalystes qui ont beaucoup de bon sens et qui vont discerner dans le fatras de Freud qui n'a jamais guéri personne, des choses. Eh bien, non, on allait voir un prêtre. On allait voir celui qui donnait sa vie et qui prêchait et qui annonçait la bonne nouvelle de l'incarnation et du salut. Vous croyez qu'il a fallu attendre 2018 pour qu'on aille se confesser? Qu'on ait attendu les moines irlandais en l'an 600? Mais c'est tellement absurde. Et voyez-vous, la confession consiste à aller voir un prêtre parce qu'il représente Jésus. La difficulté, c'est la personnalité du prêtre. C'est l'âge du prêtre. Eh bien, ça fait partie du mérite de la foi. Si vous dépassez l'humanité faible et pécheresse du curé, du prêtre, eh bien, vous en êtes d'autant plus croyant. Puisqu'on vous dit que c'est au nom de Jésus qu'il vous écoute. Ça, c'est la première démarche de la confession. C'est pour ça qu'il est difficile de penser à se confesser sans savoir que le prêtre agit au nom de Jésus. Et qu'il continue la présence miséricordieuse du Christ qui nous écoute. Ensuite, je vous ai dit qu'il y a aussi quand même cet élan naturel d'aller vers le sacré, le religieux, pour confesser ses péchés. Et ça, c'est vrai dans toutes les religions. Sauf que dans la religion révélée par le vrai Dieu, cette démarche authentique et humble de l'homme est surélevée d'une manière extraordinaire dans la grâce du Christ. Et ça, c'est magnifique. Sauf que, mais quand même, il a eu une dispense pontificale, il a 24 ans. Non, il en a 26. Hein. Et je vais lui raconter... Ben oui. Et là, voyez-vous, c'est... Quand vous aviez un prêtre de 82 ans, tout doux, tout rond, allez, c'est plus facile. Et pourtant, c'est toujours Jésus qui nous écoute à travers cet homme. Et la confession consiste à dire ce qui nous pèse. Et pendant des siècles, les gens ne savaient pas écrire, et donc ils se confessaient sans écrire, sans noter ce qu'ils font. Donc nous, on est là, on est maintenant qu'on a l'écriture, les papiers, tout ça, l'image, tout ça. Mais, si vous voulez, la vraie confession, c'est ce dont on se souvient et ce qui nous pèse pour le confier au regard de Dieu, devant un témoin, ce qui est humiliant et ce qui est méritoire. On peut parler à Dieu et se confesser à Dieu directement, parler de nos péchés à Dieu directement. Mais Dieu nous a dit que par la confession sacramentelle avec un prêtre, on avait la certitude du pardon. Et que même lorsque nous avons, je disais tout à l'heure, la contrition imparfaite, et même si on va se confesser parce qu'on a peur d'être puni, cette contrition imparfaite, elle est quand même unie à une confiance. Parce que les prêtres chrétiens ne sont pas des prêtres de Baal. Et donc, il y a toujours quand même une dimension de confiance dans la miséricorde de Dieu, et pas seulement la peur de la punition divine. D'où l'absolution. Mais pour qu'on ait le pardon de nos péchés, en dehors de cet acte méritoire d'aller voir un inconnu, il faut la contrition parfaite. Il faut, dans une relation à Dieu, extrêmement forte et intime, dire à Dieu authentiquement qu'on regrette profondément ses péchés. Ce qui est votre cas lorsque vous ne vous êtes pas confessé depuis un certain temps et que vous avez un accident de voiture et que vous voyez votre artère fémorale dégager les 5 litres que vous avez, que personne n'arrive, que personne ne vous fait un point de compression, c'est ici, hein. Surtout, hein, si ça vous arrive. Que vous-même, vous savez pas. Vous appuyez sur le, ici. Non, c'est là. Voyez. Et là, vous vous dites, ah, Seigneur Jésus, j'arrive. Voyez, où vous êtes dans votre cuisine, vous faites une très mauvaise chute, mais vous êtes au mois d'août, personne ne sait que vous êtes à la maison, vous arrivez pas à vous traîner, au bout de 2 jours, vous êtes là, hein, et vous avez prié quand même un peu déjà, hein, par terre. Et là, à un moment donné, vous vous dites, mais je vais avoir une mort absolument horrible, on va me découvrir comment, à moitié décomposé, enfin voilà. Et là, vous vous dites, Seigneur Jésus, malgré la cruauté de cette mort, eh bien, je l'offre pour tous les pécheurs qui meurent tranquillement dans leur lit, qui meurent entourés et qui étaient les derniers des monstres. Et moi, comment dire, c'est une mort un peu humiliante, certes, mais vous, vous avez quand même été flagellé à mort. Sur le sueur de Turin, c'est 140 coups de fouet. Et vous avez été frappé, vous avez été écrasé par le poids de cette croix sur le chemin de la croix. On vous a cloué sur cette croix. On vous a insulté, on vous a craché dessus. C'est pas non plus une mort extraordinaire. Vous allez me dire, oui, mais enfin, quand même, il y a des morts ridicules, accidentelles, absolument bêtes. Et quelqu'un qui se penche sur sa terrasse et qui passe. Et voilà. Il est mort. Et alors là, il s'agit d'être en état de grâce avant ce genre d'accident. Et ça s'appelle la mort subite. Et mais une mort que vous trouvez humiliante, mais où vous avez le temps de réfléchir et de faire un acte de contrition, eh bien, ça, il faut surmonter le ridicule et la peur païenne de ce qui peut nous arriver. Et ça, c'est difficile. On demande quand même à Dieu, et dans les litanies des saints, de ne pas avoir une mort subite. Mais Monseigneur Fleischmann, qui était un homme d'église profond, un grand serviteur de l'église, il a été prêtre à Paris, il a été appelé à Rome pendant près de 15 ans à la secrétaire d'État, où il a été fait prélat de sa sainteté, titre honorifique. Sans être évêque, il était monseigneur. Il est revenu à Paris, il a été chancelier de Paris, un homme courageux, travailleur, affecté à une paroisse pour les messes, les baptêmes, les préparations de mariage. Et très dur à la peine, alors qu'il avait très mal au ventre depuis 6 mois, à un moment donné, il en pouvait plus. Il avait consulté, mais il n'avait pas poussé plus loin des analyses ou autres. Enfin, très dur à la peine. Et là, il en pouvait vraiment plus. Il avait décidé de certains soins, mais c'était un peu plus tard. Et là, c'était le lundi. Et le vendredi, là, il pouvait plus attendre des examens ou autres. On a appelé les pompiers. Et il était tellement mal qu'on n'a même pas pu le descendre par les escaliers, tout ça. On a décidé de mettre la grande échelle et une civière pour qu'il soit à plat. Et il est mort sur la grande échelle. Il a rendu son âme. Il était là, il était porté. Les pompiers le descendaient. Et il est mort. Alors, on a essayé de le ranimer, mais il est mort. Alors, vous allez me dire, c'est quand même pour un saint prêtre mourir... Alors... Le vicaire général de me dire, il est mort entre ciel et terre, c'est beau. Oui. Mais pour vous consoler quand même, sa dernière phrase, alors qu'il descendait l'échelle, il a dit aux pompiers et aux personnes qui étaient à la fenêtre, n'oubliez pas d'apporter mon bréviaire à l'hôpital. Oui. C'est l'homme de devoir, c'est alsacien, n'oubliez pas d'apporter mon bréviaire. Et là, le bon Dieu, paf, non, c'est maintenant. Eh bien, voyez-vous, l'acte de contrition parfaite, c'est sans le sacrement de confession, demander profondément à Dieu pardon. Mais alors, il y a une troisième partie des fruits de la confession.